une invitée, Khadija Senadji.
C'est ça.
Et tu es membre du collectif Rosa Parks Belgique.
Absolument.
Et on va commencer par toi.
Oui.
Peut-être, bon, pour les quelques personnes qui ne savent pas qui est Rosa Parks, on va peut-être laisser de raconter brièvement l'histoire.
Oui, très brièvement. Donc, Rosa Parks, c'est cette grande dame militante, donc pionnière du mouvement des droits civiques aux États-Unis, donc qui est surtout connue pour son geste très fort. Donc, elle a posé un 1er décembre 1955 en Alabama, donc dans le sud des États-Unis, sud qui subissait donc les lois ségrégationnistes, les lois Jim Crow à l'époque. Et donc, qui pose un acte très fort. Elle revient du travail. C'est une couturière, donc en fin de journée. Et ce jour-là, donc, elle décide de s'asseoir à l'avant du bus, puisqu'il y avait effectivement, en vertu de ces lois ségrégationnistes, des places qui étaient attribuées aux Blancs et des places qui étaient attribuées aux Noirs. Donc, il y avait vraiment une séparation de fait entre les populations blanches et noires. Et donc, ça se matérialisait dans différents espaces et notamment dans les transports publics. Et donc, ce jour-là, donc, elle décide de s'asseoir à la place des Blancs, enfin, aux places réservées aux Blancs. Et elle refuse de céder sa place à un homme blanc. Et donc, son geste va véritablement lancer tout un mouvement de boycott, en fait, des compagnies de bus qui va durer 381 jours et qui va donc populariser notamment la figure du pasteur Martin Luther King et qui va être vraiment fondateur en fait de ce mouvement des droits civiques qui va aboutir à l'abolition de ces lois ségrégationnistes. Et donc le collectif effectivement s'inspire de cette figure tutélaire en matière de lutte pour l'égalité des droits. Puisque par ce geste où elle est restée assise, elle a permis à d'autres après elle de rester debout, de rester digne et de revendiquer effectivement l'égalité et la justice. Et donc on se revendique effectivement de cet héritage-là.
Parce que plus de 60 ans après, il y a encore bien des combats à mener.
Absolument. Donc le collectif Rosa Parks est né effectivement de la volonté ferme d'opposer une résistance en fait aux différentes formes de racisme structurel qui existent et qui se perpétuent à travers le temps. Donc il y a les formes, enfin il y a le racisme islamophobe donc contre les musulmans, le racisme négrophobe à l'égard des populations noires, le racisme romophobe donc à l'égard des populations roms. Et donc ces tendances-là, elles se perpétuent. On observe un petit peu partout à travers l'Europe, mais à travers le monde aussi, des tendances assez inquiétantes, des tendances plutôt fascisantes avec la montée donc, de régimes autoritaires plutôt de droite, d'extrême droite. Donc on le voit en Italie avec Salvini, on le voit en Hongrie avec Orban, on le voit aux États-Unis avec Trump, au Brésil plus récemment avec Bolsonaro, mais on le voit aussi chez nous, ici en Belgique, avec le gouvernement qu'on a. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un gouvernement, on l'euphémise parfois en disant un gouvernement d'ultra-droite, mais dans les faits, voilà, c'est quand même, c'est quand même une politique qui est difficile à distinguer d'une politique d'extrême droite dans les faits, que ce soit par rapport, enfin, l'exemple le plus probant évidemment, c'est la criminalisation des migrants, cette chasse aux migrants qui est extrêmement féroce, qui prend place comme ça de manière extrêmement féroce dans nos villes, mais elle se matérialise aussi à travers belle adoption, par exemple à l'égard de binationaux, on en parle moins, de dispositifs légaux qui instituent véritablement une sous-citoyenneté à l'égard des citoyens binationaux, notamment les belgo-marocains, les belgo-turcs qui vivent ici en Belgique, à travers des lois qui instaurent par exemple la déchéance de nationalité, donc tout ça dans la foulée de la lutte contre le terrorisme. Donc on a eu l'exemple récemment avec la figure de Fouad Belkacem. Donc cette lutte contre le terrorisme, en fait, c'est une fabrique des figures indéfendables. Mais à travers ces figures indéfendables, ce sont des dispositifs légaux qui touchent des populations bien plus larges que ces figures-là. Et donc là, véritablement, il y a un enjeu. Donc plus récemment encore, c'était une disposition législative, modification du code consulaire qui enlevait en fait la possibilité aux binationaux de recourir à l'assistance consulaire lorsqu'ils sont dans leur autre pays. Et là, ça fait directement écho au cas d'Ali Arras, belgo-marocain, donc, qui est accusé de terrorisme, qui est emprisonné au Maroc, qui a été jugé à l'issue d'un procès unique et sur base d'aveux qui ont été formulés sous le coup de la torture. Et cette torture, elle a été prouvée par les rapporteurs de l'ONU, et la Belgique l'a complètement abandonnée au Maroc, n'a rien fait donc, pour rétablir ses droits et notamment pour l'assister au niveau consulaire. Et donc cette loi-là, elle vient véritablement instituer cette volonté de ne rien faire pour ces citoyens-là. Donc c'est un petit peu contre tout ça. Et puis ces derniers mois, on a vu également toute une série de faits divers, mais qui ne sont pas véritablement des faits divers, puisque mis accolés les uns aux autres, finalement, on voit qu'ils font système. Il y a eu cette agression extrêmement violente d'une jeune femme voilée Anderli qui a été déshabillée, scarifiée. Enfin voilà, on l'a vraiment attaqué physiquement. Il y a eu libérations de la parole raciste, négrophobe aussi, dans les festivals cet été à Poucolpop notamment, le cas de Cécile Djunga. Mais ça, c'est les plus médiatiques, mais je veux dire, les populations, elles vivent, nombreux sont les anonymes qui vivent ça au quotidien et dont les cas ne sont pas médiatisés. Et donc, ce collectif-là, effectivement, à un moment donné, il a envie de montrer qu'il y a une résistance. C'est pas la société qu'on envie. On a envie de mettre fin, effectivement, à ces formes tout à fait injustes de traitement, tout à fait injustes et racistes des populations. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre en avant une exigence d'égalité et de justice pour tous.
Et ce collectif, du coup, est composé de...
Donc il est composé à la base de militants, donc d'organisations qui sont déjà actives dans le champ de l'antiracisme politique, donc des militants, des acteurs associatifs bruxellois. Donc c'est essentiellement un collectif qui est né effectivement ici à Bruxelles, mais qui grandit, donc qui attire petit à petit des personnes issues de villes wallonnes comme Liège ou également de Flandre, mais donc des acteurs associatifs, des militants, des acteurs académiques aussi, et puis des membres de la société civile. Et donc on a lancé un appel, l'appel du collectif Rosa Parks, qui appelle donc à un événement, une manifestation qui aura lieu donc les 30 novembre et 1er décembre prochains. Et cet appel, donc, finalement, il est plus large que le collectif qu'il a porté au début. Et il y a de plus en plus de monde qui adhère et qui signe l'appel et qui continue encore à le signer aujourd'hui. Donc voilà, il y a une page Facebook avec cet appel qui a été diffusé donc, dans le vif, mais qui est disponible aussi sur les réseaux sociaux.
Et sur votre site internet aussi.
Et sur le site internet, absolument.
Oui. Et concrètement, quelles sont vos actions?
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ce collectif, donc il a une perspective transnationale, c'est-à-dire qu'il y a une initiative similaire en France et aux Pays-Bas qui est menée, puisque c'est effectivement des phénomènes qu'on observe un peu partout, comme je le disais au début, et qui ne s'y limitent pas ici ni à la réalité bruxelloise ni à la réalité belge. Donc il y a une volonté de pouvoir aller chercher des forces à l'extérieur aussi, mais tout en étant ancrées effectivement dans nos réalités locales qui, elles, peuvent être parfois spécifiques. Et donc, les actions du 30 novembre et du 1er décembre, donc il y a tout d'abord la journée, ce qu'on a appelé la journée de la disparition le 30 novembre, suivie d'une journée de la réapparition le 1er décembre. Et donc le 1er décembre, c'est effectivement le jour anniversaire du fameux nom de Rosa Parks. Et donc c'est un samedi. Et donc pour faire bref, donc la disparition, en quoi ça consiste, ça fait écho à la volonté que parfois manifestent les racistes qui s'assument quand ils disent, enfin, qui ont envie de voir disparaître tout ce qui ne leur ressemble pas, ben, ces Noirs, ces Arabes, ces musulmans qui dérangent. Ça fait écho un petit peu à cette idée de retourne dans ton pays qu'on connaît bien. Et donc là, ben, l'idée, c'est un peu de matérialiser cette volonté en disparaissant. En disparaissant comment ? Ben, en disparaissant selon effectivement les modalités qui sont à notre portée. Donc pour l'instant, c'est disparaître des réseaux sociaux, disparaître du monde de la consommation, donc de la grande distribution, mais également quand c'est possible du monde du travail et de l'enseignement pour ceux qui sont encore à l'université ou même à l'école, mais on sait bien que c'est compliqué effectivement de le faire. Donc dans le monde du travail, ben, c'est par exemple prendre congé quand on peut.
Et donc, et montrer aussi une certaine force aussi de par le nombre de toutes ces diversités.
Absolument. Absolument. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est une action qui n'est pas nouvelle. Je veux dire qui a déjà été mise en œuvre ailleurs, notamment en 2006, les Latino-Américains avaient organisé un grand mouvement de boycott économique qui avait été suivi par 1 million de personnes. Et donc là, effectivement, on voit pendant une journée disparaître, enfin 1 million de personnes qui disparaissent du monde de la consommation, ça pèse, c'est pas rien. Alors ici, effectivement, on est à une plus petite échelle. L'idée, c'est aussi d'inscrire cette action dans une perspective de pérennité, enfin de pouvoir la pérenniser. Donc c'est ici une première édition et l'idée, ben, c'est pourquoi pas instaurer une journée Rosa Parks qui aurait lieu donc chaque année aux alentours du 1er décembre. Et donc au fur et à mesure du temps, de pouvoir allier des forces, notamment des forces syndicales, pour pouvoir disparaître du monde du travail, effectivement, pouvoir déposer un préavis de grève, ça facilite beaucoup de choses. En France, notamment, le mouvement de l'antiracisme politique est plus structuré, ils ont pu le faire. Donc ils ont des préavis de grève qui sont déposés par un certain nombre de syndicats, des syndicats étudiants, mais aussi des syndicats de la fonction publique, etc. Et donc là, ils sont vraiment couverts par des préavis de grève. Et donc l'objectif, ben, on espère un jour pouvoir arriver. Et il y a des membres de syndicats qui sont signataires de l'appel, mais c'est à titre individuel. Donc voilà, l'idée, ce serait un jour de pouvoir aussi rallier les structures syndicales dans leur ensemble. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer la force par l'absence, parce que quand on regarde la structure de l'économie bruxelloise, il y a toute une série de secteurs, effectivement, qui sont fortement investis par les populations de l'immigration post-coloniale. Si on imagine, par exemple, les chauffeurs de la Stib, les éboueurs de Bruxelles Propreté, les taximens, les puéricultrices, les aides-soignants dans les hôpitaux, etc. Si on imagine 2 secondes que toutes ces personnes disparaissent pendant 24 heures de leur lieu de travail, ben, c'est véritablement une ville qui est à l'arrêt pendant une journée. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et puis le lendemain, donc le 1er décembre, là on réapparaît plus digne, plus visible que jamais pour organiser donc une grande marche qui partira donc de la statue, et ça c'est tout à fait symbolique aussi, à Trône, donc la statue du roi Léopold II, qui est habituellement connu comme étant le roi bâtisseur, mais qui est en réalité un roi génocidaire, puisqu'il est à l'origine de l'assassinat ou du meurtre de millions de Congolais. Et donc, ça cristallise aussi et ça symbolise tout ce passé colonial de la Belgique qui finalement ne passe pas et qui a encore des conséquences matérielles très très visibles pour tout un pan de la population. Donc on part à 14h et on espère avoir la mobilisation la plus large qui soit et que nombreuses et nombreux seront celles et ceux qui nous rejoindront pour cette marche.
Il y a un point d'arrivée ?
Il y a un point d'arrivée, donc c'est à Schuman. Donc on va jusqu'au rond-point Schuman. Et donc voilà, on espère avoir vraiment une belle marche animée avec... parce que voilà, l'idée, c'est effectivement un signe de résistance, mais c'est On n'est pas dans la complainte, on n'est pas des victimes, au contraire, on est vraiment dans l'idée de revendiquer une dignité, d'être, quand je disais que Rosa Parks est restée assise pour nous permettre d'être debout, on est vraiment debout, on est digne et on est là pour montrer qu'on existe. Et donc c'est pas du tout dans l'optique d'une victimisation ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour affirmer cette dignité qui est bien en place. Et donc voilà, donc ça sera vraiment dans cette optique-là qu'on marchera.
Il y a une réunion opérationnelle, publique.
Il y a une réunion
dans quelques jours.
Voilà, donc la prochaine, il y en a déjà eu quelques-unes. La prochaine aura lieu samedi. Et donc c'est ici, rue de Lidekerk, pas loin.
Donc au réseau Hadès.
Au réseau Hadès, absolument. Donc c'est à 14h, de 14h à 18h, pour préparer justement donc la marche du premier. Donc tout le monde est le bienvenu, effectivement, pour donner un coup de main et pour s'investir dans la préparation de cette marche.
Ben c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points, François, Arnaud ?
Non.
Non, c'était très bien formulé. Enfin, tout est dit.
Okay.
C'est dense. Khadija, tu veux rajouter quelque chose ou
Non, enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces derniers jours du mouvement des Gilets jaunes qui voilà, en France, mais également en Belgique, et qui est parti également d'une idée aussi de boycott à partir, enfin, de cette flambée des prix des carburants, etc. Et ce mouvement pose beaucoup de questions, enfin beaucoup de monde, parce qu'effectivement on a vu un certain nombre d'images, on voit des dérives racistes, sexistes, homophobes, des récupérations aussi de parfois de l'extrême droite, et donc ça pose question. Je pense que le mouvement, à la base, il est légitime. C'est vrai que ça peut paraître dérisoire quand on parle du prix des carburants, mais quand on replace ça dans le contexte, ce sont essentiellement des personnes donc dans des zones rurales qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Donc c'est véritablement un outil quotidien pour aller au travail, pour pouvoir vivre, en fait, pour pouvoir se mouvoir dans l'espace. Et donc c'est une revendication légitime, mais qui prend place de manière un petit peu spontanée, donc qui manque d'encadrement et qui est un peu à l'image finalement de la société dans laquelle on vit, qui est elle aussi structurellement raciste, sexiste, homophobe. Et donc ce que nous on propose, c'est pas de nier cette colère là qui elle est légitime, mais effectivement de pouvoir lui donner de l'écho et de la canaliser dans une perspective d'égalité pour toutes et ouais. tous, en fait, dans une perspective de justice sociale qui ne laisserait personne sur le bord de la route, donc qui prenne en compte effectivement ces questions raciales. Mais c'est également, l'appel est d'ailleurs formulé aussi dans cette optique, dans une optique d'alliance stratégique avec le mouvement social, puisque effectivement la question raciale, elle contient en elle la question sociale, mais la question sociale, elle ne pourra pas se résoudre sans la résolution de la question raciale, et donc les deux sont intimement liés.
C'est bien dit.
Voilà.
Donc, rendez-vous vendredi 30 novembre pour la disparition, mais surtout la mobilisation du lendemain.
Voilà,
le samedi,
on espère vous voir nombreux et nombreux samedi 1er décembre à Trône à 14h.
Et on rappelle aussi que le collectif Rosa Parks Belgique est sur Facebook et aussi un site internet.
Un site internet à partir de la page Facebook, donc on peut le retrouver très facilement, oui.
Très bien. Tu es venu avec une suggestion musicale, après tu dois nous quitter, mais du coup je te laisse peut-être annoncer ce
oui.
morceau et peut-être
alors,
le pourquoi.
Alors, la suggestion musicale, effectivement, c'est un morceau qui est sorti récemment, qui est un morceau de Kerry James qui s'appelle Amel. Et donc il a écrit en hommage à Amel Bentounsi, qui est une militante française dont le jeune frère, le petit frère en fait, a été tué d'une balle dans le dos par la police alors qu'il était en cavale, et donc qui a mené un combat acharné pour faire reconnaître la culpabilité en fait du policier qui avait tiré, qui a la Donc au bout de 5 ans de combat acharné, le policier a été condamné. Et donc elle s'est vraiment investie dans ce combat-là contre les crimes policiers dans les quartiers populaires en France. Et donc c'est une figure emblématique finalement du mouvement antiraciste en France qui est vraiment une grande figure à laquelle donc Kerry James rend hommage et à travers elle rend hommage à toutes les femmes finalement qui portent ces mouvements ces mouvements en fait j'irais de libération, ces mouvements émancipateurs qui au sein desquels les femmes tiennent une grande place, et ça, c'est important de le rappeler. Et puis ici aussi en Belgique, à Bruxelles, on a aussi nos figures emblématiques. Je parlais tout à l'heure d'Ali Arras, mais on a Farida Arras qui est sa sœur, qui mène un combat remarquable aussi pour la reconnaissance des droits en fait, d'Ali Arras et également contre les violences policières. Donc voilà, tout un symbole.
Oui. Et le 15 mars, on rappelle que c'est la journée nationale contre les violences policières. Merci Khadija de ta venue.
Merci à vous pour l'invitation.